8h21 sur France Culture.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et en matière de recherche, il n'est pas seulement question d'argent, il est aussi question de vogue. Celle des sciences humaines est-elle derrière nous? D'intérêt des pouvoirs publics? Notre Premier ministre a pu récemment expliquer qu'il ne fallait pas chercher à comprendre les terroristes, mettant en cause en quelque sorte le travail des sociologues. En somme, les sciences sociales sont aujourd'hui en crise. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le journal de Le Monde, une tribune est publiée. Elle porte pour titre « 300 chercheurs vont rédiger un manifeste pour le progrès social ». Nous sommes en compagnie pour en parler de Martin Legros, le rédacteur en chef de Philosophie Magazine, puisque cette émission est en partenariat avec le magazine qui fête son 100e numéro, avec Gérald Bronner, sociologue professeur à l'Université de Paris Diderot, et avec notre camarade Sylvain Bourmeau. Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Sylvain, vous êtes producteur de l'émission La Suite dans les idées, l'émission de l'actualité des sciences humaines et sociales tous les samedis à 13h30 sur France Culture. Vous êtes également professeur associé à l'EHESS. Sylvain Bourmeau, pour vous, les sciences sociales sont-elles en crise?
J'ai entendu cette expression dans la bouche de Marcel Gauchet ici même, au matin, il y a quelques jours. J'ai un peu bondi. Je ne crois pas du tout que les sciences sociales et humaines soient en crise. Ou alors il s'agit d'une crise de croissance, on va dire. Parce que je crois qu'il n'a jamais été autant produit et publié de travaux dans ce domaine qu'on appelle les SHS, hein, les sciences humaines et sociales, qu'aujourd'hui. Simplement, peut-être que cette impression de crise vient du décalage qui existe entre une réalité, qui est celle du quotidien de nombre de chercheurs. Il n'y a jamais eu autant de chercheurs professionnels dans ces disciplines qu'aujourd'hui en France. Décalage donc entre cette réalité du chercheur, des chercheurs au quotidien, et la perception qu'on peut en avoir plus généralement dans le grand public. Et là, ça renvoie au rôle extrêmement important des médias. Alors France Culture est un peu à part, parce que je dirais c'est au fond l'un des rares médias qui est à l'intersection, qui permet vraiment, en prenant le temps, de faire en sorte de donner une idée relativement précise, relativement exacte, de la nature, du pluralisme, de la variété, des productions en sciences humaines et sociales, avec des tas d'émissions spécialisées sur l'histoire, sur la philosophie, sur toutes les sciences humaines et sociales. Mais au fond, c'est un travail qui est assez peu fait, et sans doute moins que jamais. C'est-à-dire que voilà, là, alors que il y a une augmentation de la production des sciences humaines et sociales, il y a un intérêt moins grand, probablement, dans les médias. Et voilà, c'est peut-être ce qui produit cette impression de crise.
Vous êtes d'accord, Gérald Bronner?
D'abord, je dirais oui, je suis d'accord avec le diagnostic général. Bon, simplement, je ne l'adosserai pas au même chiffre. Le fait qu'il y ait plus de chercheurs en sciences sociales ou plus de production n'est pas un indice de qualité, bien entendu, et n'est pas non plus un indice qu'il n'y aurait pas une crise dans les sciences sociales. Il y a quand même quelques éléments qui sont un peu inquiétants, même si on peut les interpréter de plusieurs façons. Tout le monde sait, par exemple, qu'au Japon, hein, en 2015, il y a à peine un an, c'était le 8 juin 2015, le premier ministre, Shinzo Abe, a demandé l'interruption aux 86 universités japonaises de l'enseignement des humanités, des sciences sociales en particulier, et quand même 17 de ces universités qui ont accepté. C'est un symptôme assez inquiétant.
Ils considéraient qu'elles étaient inutiles, ils ne considéraient pas qu'elles étaient subversives.
Oui, mais inutiles, si vous voyez, ce n'est pas un élément que je trouve très rassurant pour nos disciplines.
Non, ce n'était pas positif. Non, effectivement, il fallait justifier cette interdiction.
Je ne suis pas du tout d'accord avec ce diagnostic, mais on a vu aussi ce type de demande, par exemple, poindre en Suisse, un pays qui est beaucoup moins lointain et moins spécifique peut-être que le Japon, parce qu'il faut savoir quand même qu'au Japon, il y a quelques dizaines d'années, si vous choisissiez les sciences sociales, vous étiez bon pour l'armée, par exemple, alors que si vous choisissiez des domaines d'ingénierie, vous étiez dispensé. Donc vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, la méfiance vis-à-vis des sciences sociales dans ce pays-là, mais on trouve tout de même des symptômes que nous devons analyser, je pense, en tant que chercheurs en sciences sociales, y compris en France. Il y a eu la déclaration de Manuel Valls, que vous avez rappelé, que personnellement j'ai condamné à plusieurs reprises. Et il y a eu toute une série de controverses autour des gender studies, par exemple, les ABC de l'égalité, etc., etc. Il ne faut pas prendre ces controverses pour argent comptant, mais elles nous disent quelque chose de la méfiance, en tout cas d'une partie de l'opinion publique, par rapport aux propositions des sciences sociales. Je dirais juste encore un mot, cette méfiance ne doit pas non plus être prise comme argent comptant, car souvent la science fait des propositions contre-intuitives, Et il est normal qu'il y ait une différence entre les propositions de la science et ce qu'attend l'opinion publique. Mais d'un autre côté, on se faciliterait trop la tâche en considérant a priori que cette méfiance vient seulement de cette distance entre ces propositions contre-intuitives et l'attente du grand public, notamment à propos des questions de radicalisation. Justement, peut-être qu'on y reviendra, parce que je pense que c'est un abcès de fixation, pour le coup, assez légitime.
Sylvain Bourmeau.
Je partage le diagnostic et les craintes de Gérald Bronner s'agissant de ces éléments au Japon, en Suisse, en France, avec les positions incompréhensibles de Manuel Valls, d'anti-intellectualisme le plus idiot au fond. Mais je n'y vois pas du tout une crise des sciences sociales, j'y vois une crise de la politique, une crise de ce monde politique incapable d'avoir la curiosité de ce qu'est la production des sciences humaines et sociales, incapable de prendre le temps d'ouvrir des livres ou des articles de sciences humaines et sociales et de se nourrir, de se réalimenter en permanence avec ces propositions contre-intuitives. Et là encore, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que ce serait inquiétant de voir une articulation trop bien huilée entre la recherche en sciences humaines et sociales et les politiques publiques qui, au fond, mettraient en œuvre immédiatement. Je pense que cette tension peut être une tension démocratiquement intéressante. Mais pour moi, il n'y a pas de crise des sciences humaines et sociales. Il y a effectivement une fragilité des sciences humaines et sociales. Fragilité dans un monde où certains peuvent avoir tendance à considérer ce domaine de recherche comme un domaine inutile au mieux ou dangereux au pire. Et donc je pense que les chercheurs doivent être extrêmement attentifs. En même temps, tous les signaux ne vont pas dans le même sens. C'est-à-dire qu'à la fois, certes, on a un Premier ministre qui n'a pas l'air de goûter aux sciences économiques et sociales, mais on a un secrétaire d'État à la recherche, par exemple, qui est beaucoup plus attentif à ce domaine que la personne qui était avant lui, Geneviève Fioraso, qui, semble-t-il, ne s'intéressait pas du tout au SHS. Donc là, on a des signes intéressants aussi.
Martin Legros de Philosophie Magazine.
Oui, je voudrais un peu secouer cette euphorie, parce qu'il me semble quand même que si on prend la distance du temps, vous soumettre ce petit recul, les sciences humaines ont quand même incarné dans les années, jusque dans la fin des années 80, l'idée qu'il y avait la possibilité de dessiner avec la science l'avenir, de décrypter avec la psychanalyse le tréfonds de notre esprit et de notre inconscient, avec l'anthropologie de dire ce qu'était l'homme et avec l'économie de dessiner l'avenir. Il me semble que ces ambitions sont aujourd'hui totalement abandonnés du point de vue de la scientificité. Je voudrais juste prendre deux exemples. Vous en parliez, Gérald Bronner, sur la radicalisation. Le meilleur livre sur les événements m'est venu, moi, d'un chercheur sud-africain qui s'appelle Philippe Joseph Salazar, sur Parole armée pour décrypter Daesh. Le meilleur livre sur les pathologies du travail aujourd'hui m'est venu d'un jeune chercheur belge, Pascal Chabot, sur le burn-out. Ce ne sont pas des gens qui travaillent dans des labos de sciences sociales. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un mélange de spécialisation et d'abandon d'ambition qui fait que les sciences sociales et humaines sont un petit peu en mauvais état?
C'est pas gentil pour le livre de Gérald Bronner sur la pensée extrême.
Oui, que vous devriez lire.
Gérald Bronner.
Écoutez, non, moi d'abord, je ne me désespère pas que les sciences sociales ne se donnent plus comme objectif de décrire l'avenir. Je veux dire, je trouve que c'est un objectif en effet très 19e-iste, et je comprends que dans l'histoire des sciences sociales, il y ait eu ce genre d'objectif. Je trouve pas que ça soit un marqueur de scientificité très crédible. En revanche, on peut constater, pour aller un peu dans votre sens, et pour pas me faire quand même l'avocat du diable de ma propre discipline, je crois que ce que l'on peut quand même adresser comme reproche aux sciences sociales, c'est de n'avoir pas su gagner le prestige des autres sciences en offrant des possibilités pratiques pour résoudre un certain nombre de problèmes, n'est-ce pas ? Et plus grave, elle n'arrive même pas à s'accorder en général sur une interprétation d'un phénomène. Nous trouverons à propos du même phénomène une pluralité de points de vue, des idées qui sont en concurrence. On pourrait trouver, c'est une bonne nouvelle évidemment pour la pluralité des idées, mais on voit bien que dans les cités des sciences habituelles, il y a une concurrence entre les idées et qu'à un moment donné, il y a une sélection de ces idées. Sélection darwinienne, pourrait-on dire. Sauf que cette sélection en sciences sociales, elle ne s'opère jamais tout à fait. Prenons donc l'exemple de la radicalisation. J'ai pu entendre sur cette antenne et sur bien d'autres antennes à peu près n'importe quoi sur ce sujet que je connais un peu. Et on a entendu quelqu'un dire, par exemple, que je nommerai pas, que les attentats de Paris et les terrasses en particulier représentaient une violence sociale et que cette violence sociale justifiait en quelque sorte le recours à la violence terroriste. C'est-à-dire, je parlerai même pas d'un point de vue moral de ces interprétations, mais c'est juste descriptivement complètement faux. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais mis le nez dans les statistiques de ceux qui bascule vers la radicalisation. Mais je trouve que c'est pas normal qu'on puisse dire quelque chose comme ça dans une discipline qui prétend à la scientificité.
Sylvain Bourmeau.
Prédire l'avenir, je ne sais pas si les sciences humaines et sociales se sont fixées un jour cet objectif. Enfin, je suis content qu'elles y aient renoncé, si tel a été le cas. Je sais bien qu'il s'est trouvé des professeurs de sociologie pour faire soutenir une thèse à Elisabeth Tessier en matière de prédiction de l'avenir. Mais enfin, soyons sérieux de minutes. C'est-à-dire que je pense que effectivement, on peut avoir ce sentiment d'une disparition de grands paradigmes qu'on peut caricaturer à coup de trois concepts. J'y vois plutôt un progrès pour le coup, non pas du tout un recul. Et ce qui est intéressant, ce sont les controverses que l'on trouve aujourd'hui dans les sciences sociales. Ce qui peut paraître inquiétant, c'est certaines formes de spécialisation, et en particulier quand les sciences sociales se mettent à trop vouloir se calquer sur les sciences dures, comme on dit. Et de ce point de vue-là, moi, je suis plutôt le partisan d'une épistémologie différente, en quelque sorte, pour les sciences sociales, celle que plaide Jean-Claude Passeron pour ces sciences historiques, qui sont des sciences, mais qui sont des sciences différemment des sciences dures. Et donc, je plaide en particulier pour le fait que les chercheurs continuent d'écrire des œuvres, des livres, et ne se réduisent pas au format de l'article. Ça, je pense que c'est très important parce que les sciences sociales doivent produire des œuvres culturelles qui doivent être lues comme telles, qu'on doit prendre plaisir à lire et pas uniquement des articles techniques.
En tout cas, l'avenir des sciences sociales, quoi qu'il en soit, des sciences tout court, il est entre les mains des chercheurs, autrement dit des jeunes chercheurs, des thésards. Et l'équipe des Matins, au travers de Léa Mormin-Chauvac, est allée tendre son micro à l'un de ses thésards. Il s'appelle Frédéric Ducarme, il a 28 ans, il est en troisième année de doctorat et rédige actuellement sa thèse de biologie. Écoutez-le.
Le problème, c'est celui de la précarité. Parce que le doctorat, c'est encore quelque chose d'assez préservé. C'est-à-dire que pendant 3 ans, si on a une bourse, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais si on a une bourse, on est payé pour faire notre travail dans les meilleures conditions possibles. Mais au-delà de ces 3 ans, donc on sort, on est à bac plus 8, souvent on a facilement 30 ans, on est jeté dans le monde de la recherche qui est actuellement complètement dévasté, et il est extrêmement dur de trouver des postes. Ce qui se passe, c'est qu'il y a soit des atters, soit des postdocs, c'est-à-dire toute une série de postes qui sont extrêmement précaires, qui sont des contrats en fait en CDD d'un an, souvent extrêmement mal payés. Donc c'est là qu'est le gros problème actuellement dans la recherche, c'est que la thèse, peu de gens y accèdent, mais l'après-thèse actuellement est un grand vide et qui oblige souvent les gens à s'expatrier. Parce qu'en fait, en France, il n'y a plus de travail pour les docteurs, pour les gens qui ont fait comme ça des longues études et qui se sont spécialisés. Donc même dans les laboratoires, on conseille aux gens de partir à l'étranger parce qu'il n'y a pas vraiment le choix et peu de gens reviennent. La situation de la recherche actuellement, elle est quand même assez problématique à cause de ces coupes budgétaires parce que c'est pas seulement qu'on recrute de moins en moins de doctorants, mais en plus, en termes de moyens, c'est-à-dire de matériel, de locaux, etc., c'est de pire en pire. L'université française est délabrée. Il suffit de se promener dans les laboratoires de n'importe quelle université. Nous, au muséum, il y a beaucoup de laboratoires qui n'ont pas l'eau potable en 2016. Il y a de l'amiante partout à Jussieu, etc. Enfin, les conditions de la recherche sont de pire en pire en France, et notamment pour des causes de budgétaires. Donc, beaucoup de gens nous conseillent de chercher à l'étranger, au Canada, par exemple. Beaucoup de gens partent. Après, c'est pas forcément facile, parce que les gens qui terminent leur thèse à 32-33 ans, parfois, ils aimeraient bien se fixer, avoir une vie de famille, des amis, être proche de leur famille éventuellement. La précarité, elle n'est pas que matérielle et situationnelle. Effectivement, elle est aussi psychologique, parce que quand on a fait des études longues, qu'on a réussi tous les concours les plus difficiles de notre pays et qu'on se retrouve à multiplier les candidatures pour des postes au SMIC qu'on n'est même pas sûr d'avoir, que souvent on n'a pas, effectivement, il y a souvent un sentiment d'injustice qui va gagner beaucoup de jeunes chercheurs.
Le reportage de Léa Mormin-Chauvac avec une réalité, c'est celle de nombreux thésards qui découvrent ce qu'est la précarité, avec une partie évidemment qui en sort et d'autres qui demeurent, Gérald Bronner.
Oui, ben nous connaissons tous la situation des thésards. J'encadre moi-même des thèses et je dois dire que, comme beaucoup de mes collègues maintenant, je limite. Malheureusement, nous sommes obligés de limiter l'acceptation de thésards, même s'il y a des esprits brillants, parce que on sait qu'on les conduit face à des probabilités qui sont très très faibles de réussite, et donc il faut avoir une motivation très, très importante. Ceci dit, je voulais revenir sur ce que disait Sylvain Bourmeau tout à l'heure, qui faisait une distinction tout à fait effectivement classique en sciences sociales, c'est-à-dire l'idée que les sciences humaines et sociales, la sociologie, serait en fait dans l'univers des sciences dans une position un peu particulière, hein, et donc n'aurait pas finalement à souscrire, à respecter les mêmes critère de sélection des idées. Alors, je suis d'accord avec l'idée qui date, là, peut-être de Diltai et de Weber, hein, qu'il y a une spécificité de l'objet qui nous intéresse.
Un épistémologue et un
des fondateurs de la sociologie allemande. Effectivement, je suis d'accord avec cette idée qu'il y a des spécificités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter, à mon avis, intellectuellement, un individu, les interactions complexes qui forment le tamis de la vie sociale et des atomes ou des gènes ou quelque chose comme ça. Tout à fait d'accord. En revanche, j'appartiens plutôt à une tradition, et je vais dire pourquoi c'est important pour parler de la crise des sciences sociales. J'appartiens à une tradition qui pense que si l'objet a des spécificités, les méthodes doivent être globalement les mêmes et l'administration de la preuve ne doit jamais être perdue de vue. Pourquoi ? Parce que sinon, ça nous conduit, et on le voit dans les sciences sociales, à fermer les yeux à la possibilité de la pluridisciplinarité. Vous savez, moi, aujourd'hui, je travaille essentiellement avec des physiciens. Et c'est devenu très, très important, parce que si vous pensez que la sociologie a effectivement une position d'extraterritorialité dans l'univers des sciences, eh bien, vous sombrez dans des explications de type tel phénomène est obligatoirement déterminé par un autre phénomène social. On connaît la proposition durkheimienne, qui est tout à fait respectable, mais qui, du coup, vous coupe de la possibilité de discuter avec les sciences cognitives. Aujourd'hui, si vous discutez avec ces disciplines, par exemple, vous êtes de droite ou des choses comme ça, donc ça vous disqualifie. Et je trouve que c'est dommage pour l'avancée de nos disciplines.
Sylvain Beaumont, une réponse rapide, mais au-delà de ça, la crise des sciences sociales, on peut la décrire de différentes manières. On peut la décrire aussi avec la crise de l'édition, puisque là, les tirages ont chuté, et ça, on le constate quotidiennement.
Je ne vais pas répondre à Gérald Bronner, parce que ça nous amènerait sur un débat épistémologique très vaste, mais je pense qu'il y a effectivement des chiffres un peu alarmants en termes de diffusion. En même temps, on voit fleurir aussi de petites maisons, y compris des presses universitaires locales qui font un travail, je trouve, de plus en plus appréciable, de qualité. Donc c'est encourageant. Je pense que moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est que France Culture est un peu isolée dans ce rôle de média passeur. Et je trouve qu'il serait temps, au fond, puisqu'on compare avec les sciences dures, qu'il y ait dans les rédactions des journaux en France des journalistes dont le métier est d'être spécialiste des sciences humaines et sociales et qui fasse ce travail de vulgarisation. Je veux dire, l'équivalent d'un Sylvestre Huet, par exemple, pour prendre le nom d'un très bon journaliste scientifique qui vient de quitter Libération. Voilà. Et je crois que je plaide pour ma paroisse, mais je veux dire, je pense qu'il y a besoin de ces gens qui sont suffisamment informés, qui prennent le temps et qui sont capables d'expliquer à un plus grand public ce que font précisément les chercheurs. Et ça, si on n'a pas ces gens-là, on va de plus en plus vers un grand malentendu entre le public et les chercheurs en sciences sociales.
Une dernière question, Martin Legros.
Oui, est-ce que vous croyez pas, je vais pas insister, mais est-ce que vous croyez pas que le fait que le succès de la philosophie notamment, qui a pris le relais, me semble-t-il, de l'ambition qui était, mais sous un mode de non-scientificité, de l'ambition d'anticipation de l'avenir et du présent, est-ce que vous ne croyez pas que c'est le signe tout de même que sous un mode réflexif, il y a une demande et une attente d'un discours réflexif sur le présent autant que sur le futur? Vous parliez de la science des êtres sociaux, la prédictibilité. On a des nouveaux outils qui vont poser des questions philosophiques redoutables quant à leurs usages et quant à ce qu'elles vont nous révéler.
Un mot rapide de conclusion, Gérald Bronner.
Oui, c'est tout à fait vrai, mais je crois pas trop à la théorie des vases communicants. Je veux dire, ce que la sociologie aurait perdu, la philosophie le gagnerait. Puis j'ai l'impression surtout que la philosophie contemporaine, en tout cas dans ses aspects très populaires, elle répond surtout à des questions d'être, de sentiments, d'identité personnelle. Et c'est peut-être là, dans la montée des identités individuelles, qu'il faut chercher peut-être le succès de la philosophie des années 90 et aujourd'hui. Je sais pas.
Un mot de conclusion, Sylvain Beaumont.
Oui, enfin, d'une certaine philosophie, parce qu'il y a philosophie et philosophie, celle qui vous intéresse, celle qui m'intéresse, c'est pas celle qui fait l'objet de cette demande philosophique, pour reprendre l'expression déjà très ancienne de Jacques Bouvresse, le phénomène n'est pas nouveau. Là encore, il y a besoin de trier, il y a besoin d'expliquer aux gens qu'il y a des gens qui font de la philosophie très sérieusement aussi en France.
Et c'est ce que vous faites, Sylvain Beaumont, trier et permettre aux auditeurs de s'orienter dans la vie des idées. Dans votre émission La Suite dans les idées, on la retrouve tous les samedis à 13h30 sur France Culture. Gérald Bronner, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage La Pensée Extrême aux Presses Universitaires de France. Merci à tous les deux d'avoir présenté votre vision et votre conception des sciences humaines. Merci à Philosophie Magazine. En la personne de Martin Legros, Philosophie Magazine célèbre son numéro 100, ce qui est la preuve en tout cas d'un intérêt pour la philosophie. Beaucoup de philosophes s'expriment, Eva Ilouz, Alain Badiou, Souleyman Bachir Diane, Marcel Gauchet, Clément Rosset, bref, beaucoup de grands noms sont convoqués dans ce numéro 100. Et puis France Culture vous invite au Centre Pompidou tout ce week-end au travers d'une opération exceptionnelle, le week-end de la création et des idées Imagine, avec énormément de débats. deux rencontres, deux visites. Venez au Centre Pompidou tout ce week-end. Nous vous y attendons. Vous verrez vos animateurs préférés, notamment Sylvain Bourmeau, Emmanuel Laurentin, Caroline Brouet, Mathilde Serrel. Ils seront présent et vous aurez donc la possibilité de les rencontrer. Peut-être vous rencontrerez aussi Xavier Delaporte.
Non, malheureusement, je serais bienvenu. Non, mais c'est vrai, j'ai un truc, comme on dit.